Europe 1. Qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on est une adolescente et qu'on découvre dans les affaires familiales la vieille étoile jaune que son père portait enfant ? Dans son livre La Promesse, reparu aux éditions Pocket, Marie Delattre nous fait part de la découverte de son histoire familiale. Elle écrit
« Mon père était muet et laissait des indices. »
Le père de l'auteur a été confié à des amis chrétiens de ses parents qui l'ont sauvé des nazis puis adopté. Mais tous les petits-enfants juifs n'ont pas eu cette chance. Que faire de tous les enfants de déportés et de fusillés au lendemain de la libération ? La Commission centrale de l'enfance, la CCE, va les prendre en charge et leur donner une chance de grandir en s'insérant dans la société française. Je vais vous raconter l'histoire de cette institution. Je suis Virginie Giraud et je serai votre guide au cœur de l'histoire, un programme produit par Europe 1 Studio. Les orphelins de la Shoah. Nous sommes à Paris au début des années 1980. Marie Delattre vient d'avoir 13 ans. Son père l'invite au restaurant, en tête à tête. C'est rare. Marie est un peu intimidée par ce rendez-vous. Voilà le père et la fille attablés au Napoli, rue Saint-Placide. C'est ce genre de restaurant italien très classique, avec une nappe rose et une surnappe en papier blanc sur laquelle une bouteille d'huile pimentée forme une tache grasse translucide. D'abord, Marie et son père évoquent des sujets du quotidien. L'école, les vacances, le chat, tout ce qui fait la vie d'une jeune adolescente. Et puis le père de Marie se met à parler de son enfance. Il lui demande si elle a bien compris que ses grands-parents sont des grands-parents adoptifs. Ses vrais grands-parents sont morts à Auschwitz. Marie a pour deuxième prénom Madeleine, celui de sa grand-mère adoptive. Et pour troisième prénom, Frida, celui de sa véritable grand-mère juive. Au début, l'adolescente est un peu perplexe. Elle comprend enfin que son patronyme, Delattre, n'est pas celui qui devrait être inscrit sur ses papiers d'identité. Elle finit par demander à son père quel est son vrai nom. Il préfère le lui épeler plutôt que de le prononcer.
K-O-G-A-N.
Marie Delattre aurait dû s'appeler Marie Kogan. À peine intègre-t-elle cette information que son père lui demande de n'en parler à personne. Le début du XXe siècle n'a pas été très facile. La fin de la Première Guerre mondiale n'a pas réglé les tensions en Europe. Au contraire, les nationalismes exacerbés sont toujours là. Le krach boursier de 1929 aux États-Unis a inauguré une crise économique aux répercussions mondiales. Alors que le capitalisme montre ses limites, les communistes en Russie veulent faire du prolétariat une force politique au service d'une petite élite qui adore faire couler le sang. Beaucoup de juifs d'Europe centrale, comme en Pologne ou en Ukraine, fuient alors vers l'Europe occidentale. Une partie d'entre eux sont des militants communistes au moment où la Pologne résiste encore aux idées soviétiques. Les militants redoutent des peines de prison. En Ukraine, c'est l'antisémitisme qu'il faut fuir. Il y a régulièrement des pogroms organisés par les Russes. C'est ainsi que beaucoup de juifs ashkénazes arrivent en Allemagne, en Belgique et en France dans l'entre-deux-guerres, comme les grands-parents de Marie Delattre. Parallèlement, on assiste à une montée du fascisme en Europe. Hitler, le Führer, a un projet délirant pour l'Allemagne. Bâtir le Reich de 1000 ans et exterminer les Juifs. S'il reste relativement discret sur ce second point, il l'est moins sur le premier. Ses attaques expansionnistes en Autriche et en Pologne aboutissent à la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939. En France, la Troisième République à bout de souffle est remplacée par le régime collaborationniste de Vichy dès l'été 1940. Le maréchal Pétain demande l'armistice. La France a perdu la guerre. Elle est occupée par l'Allemagne et les nazis exigent que la police de Vichy leur livre les juifs. D'abord les hommes, puis les femmes et les vieillards. Vichy va faire du zèle en livrant les enfants. C'est dans ce contexte qu'a lieu la rafle du Veldiv à Paris les 16 et 17 juillet 1942. Parmi les 13 000 personnes arrêtées, il y a plus de 4 000 enfants. Nombre d'entre eux mourront dans les camps. À cette date, ça fait déjà 2 ans que les réseaux de résistance s'organisent. Ils sont nombreux et ne dépendent pas tous de la France libre du général de Gaulle, loin de là. De nombreux groupes de résistance sont communistes. Ils ont des ramifications à travers toute l'Europe de l'Est jusqu'à Moscou. Parmi eux, il y a les FTP-MOI, les francs-tireurs et partisans, section de la main-d'œuvre immigrée, les fameux MOI. Ce sont dans ces sections d'étrangers qu'on trouve des groupes de résistants juifs. Et c'est dans cette constellation qu'est fondée l'Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide, l'UJRE, mais aussi le mouvement Solidarité qui permet à des Juifs d'entrer dans la clandestinité. L'un des pivots de l'UJRE et de Solidarité est Sophie Schwartz, une Polonaise militante à la CGT. Sophie Schwartz veut sauver les 12 000 enfants juifs de France de la folie des nazis. Elle convainc les parents d'envoyer leurs petits à la campagne sous de fausses identités. Les listes d'enfants sont ensuite cachées, avec l'espoir de pouvoir les retrouver à la fin de la guerre. Au printemps 1945, enfin, la guerre s'achève. 25% des Juifs de France ou résidant en France ont péri dans les camps de la mort. Pour cela, à part le devoir de mémoire, on ne peut plus rien faire. Mais les autres, eux, ils sont encore vivants. Les réseaux de résistants juifs changent de mission. Il faut s'occuper des Juifs qui rentrent des camps, retrouver les biens de ceux qui ont été spoliés et surtout s'occuper des enfants de déportés et de fusillés. Pour remplir cette mission, l'UJRE fonde dès le printemps 1945 la CCE, la Commission Centrale de l'Enfance. La CCE, avec l'aide de l'OSE, l'Organisation de Secours à l'Enfance, une institution sociale juive, se dote de plusieurs missions. Retrouver les enfants envoyés à la campagne sous de fausses identités, s'occuper des orphelins et prendre en charge les enfants dont les parents sont trop traumatisés pour s'occuper d'eux. Dès les semaines qui suivent la fin de la guerre, la CCE trouve 6 maisons en région parisienne pour loger les enfants dont elle a la charge dans ce qu'on appelle maintenant un foyer. Ces foyers s'implantent dans les villes où les communautés juives sont importantes, comme à Livry-Gargan, en région parisienne, près de Nancy ou dans le sud de la France. Au départ, on compte sur l'entraide au sein de la communauté juive pour trouver des lits, des couvertures, des vêtements, de la nourriture. Et puis, la vie s'organise. La CCE chapeaute bientôt des foyers pour les orphelins, des patronages, l'équivalent de nos centres aérés, et des colonies de vacances. L'urgence est de redonner aux enfants une bonne santé physique en les nourrissant suffisamment et en leur assurant les soins nécessaires. Et puis, une question se pose vite pour les petits orphelins de la CCE. Est-ce qu'on peut mieux élever les enfants dans un foyer que dans leur propre famille ? Pour y répondre, les premiers dirigeants des foyers, parmi lesquels il y a plusieurs femmes avec une grande expérience de l'enseignement, construisent la pédagogie des foyers de la CCE. Dans ces maisons, les enfants orphelins reçoivent une éducation laïque, juive et progressive. Oui, progressive, et vont peut-être à la fois laïque et juif. Je vous explique tout ça. Beaucoup de dirigeants de la CCE sont des militants communistes venus de l'Europe centrale ou de l'Europe de l'Est. Ils veulent donc contribuer à forger un monde communiste en préparant de futurs petits travailleurs prêts à s'engager politiquement. Or, le communisme est largement matérialiste. La vie spirituelle est très secondaire, voire superfétatoire. Elle ne sert à rien qu'à abrutir les masses. Voilà pourquoi l'éducation dispensée par la CCE doit être laïque. Les foyers ne sont pas des écoles talmudiques. Néanmoins, dans cette vision du monde, on peut être laïque et juif. D'ailleurs, il y avait beaucoup de Français juifs laïques en France depuis la fin du XIXe siècle. Ça veut dire qu'on apprend à ses enfants à ne pas avoir honte de leur judéité. Mais il faut voir ça comme une composante essentielle d'un groupe social et non comme une identité religieuse. Dans les foyers, l'éducation n'est pas focalisée sur l'apprentissage du yiddish, alors que dans les patronages et les colonies, il y a des cours de yiddish et on chante beaucoup dans cette langue. Enfin, l'éducation est progressive. Ce mot est polysémique à l'époque. Il signifie qu'on ne brusque pas les enfants du foyer. On leur laisse le temps de l'enfance et on les aide à grandir sans violence, en tentant de leur faire oublier leur traumatisme grâce à la vie en collectivité. Mais progressive veut aussi dire progressiste pour nous. Les enfants des foyers auront pour mission de devenir de bons citoyens français, bien intégrés à la vie en société, et ils porteront l'idéal de progrès social défini par le communisme. Dans les foyers, il semblerait, si on en croit la majorité des témoignages, que la vie n'est pas malheureuse. Les enfants apprennent à tout partager, rien ne leur appartient en propre. C'est pas toujours simple quand un camarade vous chipe vos bonbons, comme le racontera l'écrivain Claude Duttmann dans un de ses livres. Mais si on part du postulat que vos bonbons ne sont pas à vous, est-ce que c'est vraiment un vol ? Il y a beaucoup d'activités artistiques, notamment du dessin et de l'écriture. Les enfants apprennent le sens de la responsabilité et le soin des autres. Il y a même de l'affection entre les enfants, mais aussi de la part du personnel encadrant. Le neuropsychiatre et psychologue Boris Cyrulnik, l'homme qui a popularisé le concept de résilience, est passé par les foyers de la CCE. Il en conserve quelques souvenirs heureux après les drames de la guerre. Ces moments de bonheur ont sans doute été permis par les nouvelles pédagogies employées dans les foyers. Elles s'inspirent des théories venues d'Europe de l'Est avec deux influences principales, celle de Janusz Korczak et d'Anton Marenko. Voyons le premier, Janusz Korczak. Il est pédiatre et pédagogue juif polonais. Il est mort à Treblinka après s'être occupé d'enfants orphelins dans le ghetto de Varsovie. Il est à l'origine des droits de l'enfant et il a développé des théories selon lesquelles les petits doivent apprendre à s'autodiscipliner et à s'autoréguler. En gros, il plaide pour une république des enfants. Par exemple, quand un enfant fait une grosse bêtise, il doit être jugé par une mise en scène de tribunal par d'autres enfants. Si deux enfants se bagarrent, les adultes ne doivent pas systématiquement intervenir. Le foyer de Livry-Gargan, par exemple, dès la fin des années 1940, fonctionne comme une république des enfants. Bon, j'aurai l'occasion de vous reparler un peu plus de Janusz Korczak dans un autre récit. Voyons maintenant le second pédagogue, Anton Marenko, auprès duquel se sont formées certaines des dirigeantes des foyers de la CCE dans les années 1920-1930. Cet enseignant ukrainien, qui a mis toute sa science au service des soviétiques, s'est illustré en travaillant auprès des jeunes délinquants. À la colonie Gorki, il développe des méthodes pédagogiques basées sur les idéaux démocratiques. Pour faire simple, il s'agit de ramener à la civilisation des jeunes qui sont presque à l'état sauvage. Ça n'a rien d'idyllique. Face à leur violence, Marenko est parfois obligé de donner le coup de poing. Il garde toujours un revolver sur lui, mais il place la foi au cœur de sa pédagogie. Bon, pas une foi religieuse, hein, bien sûr, mais la foi en l'humain, en l'espérance. Il redonne un cadre de vie aux petits délinquants, des règles à suivre, des droits et des devoirs pour en faire de futurs adultes heureux. Évidemment, les enfants des déportés et des fusillés ne sont pas des petits délinquants. Ce sont des enfants qui ont connu les horreurs de la guerre, la peur, la faim, l'abandon. Bien encadrés, ils se montrent résilients. Le concept de Boris Cyrulnik prend ici tout son sens. Il ne faut pas perdre de vue que les foyers de la CCE doivent vite rendre ces enfants autonomes pour des questions budgétaires. Entre 16 et 18 ans, ils doivent quitter le foyer. Ils ont un diplôme qui leur permet d'exercer un métier, généralement un métier d'ouvrier. Et oui, il ne faut pas oublier que la CCE est largement communiste et qu'elle veut créer une nouvelle génération d'ouvriers militants. D'ailleurs, c'est plutôt un succès parce que dans les années 1950, 83% des jeunes sortant des foyers de la CCE exercent un métier d'ouvrier dans la métallurgie, un secteur porteur à l'époque qui contribue à la reconstruction de la France. 10% des enfants des foyers, quant à eux, deviennent instituteurs ou se lancent dans une profession intellectuelle. Nombre d'entre eux reviendront à la CCE comme moniteurs dans les patronages ou les colonies. Ces jeunes juifs laïcs et convaincus par les idéaux du progrès social souffrent néanmoins en quittant le foyer. Ils se retrouvent dans la vraie vie, loin du cocon affectueux et collectif de leur maison commune. Mais ils sont suffisamment armés pour s'insérer dans la société française. Une partie d'entre eux reprendra leurs études et les historiens observent une ascension sociale chez les enfants de la libération par rapport à leurs parents. Si la dimension communiste de ces foyers est critiquée et critiquable, parfois même de l'intérieur, force est de constater que les foyers de la CCE ont rempli leur rôle. Ils ont fait des orphelins, des déportés et des fusillés de bons Français, bien insérés dans la société, sans renier pour autant leur judéité. Pour découvrir un autre parcours d'enfants juifs de la libération plus personnel, je vous invite à lire le roman autobiographique de Marie Delattre, La promesse, qui vient de reparaître aux éditions Pocket. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Christophe Davio. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et la diffusion, Marie Corpet et Nathan Laporte. Et moi, la plume et la voix de Cœur de l'Histoire, je vous retrouve tous les jours en podcast sur l'appli Europe 1 ou sur votre plateforme d'écoute préférée et aussi tous les week-ends à 15h sur l'antenne d'Europe 1. À très vite!